Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bienvenue dans cette équipe est sauvage qui vous accompagne chaque après-midi avec en tête de cortège Mathieu Noël. On va profiter des meilleurs moments, c'est notre compil du week-end. Jusqu'à 18h, nous sommes donc avec Mathieu Noël, mais aussi Eva Roch et bien sûr les journalistes d'Europe 1 pour la fameuse battle. Objectif, décrocher le titre de chroniqueur du jour. Et durant cette première heure, des infos, des découvertes, un quiz, de la musique bien sûr. Et comme à son habitude, en attendant le déconfinement définitif, Mathieu Noël prend des nouvelles d'une personnalité au téléphone, et jeudi, c'était le comédien Guillaume de Tonquédec.
Chaque jour, vous le savez, Eva, on prend des nouvelles d'une personnalité qu'on aime. Aujourd'hui, on l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un comédien exceptionnel qui peut tout jouer. La preuve, la dernière fois qu'il était invité de l'équipe sauvage, une journaliste de Télérama était venue faire un papier sur l'émission. Je lui avais demandé de nous la jouer Télérama, genre un télo classe. Il s'était tout de suite adapté.
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je dis ça pour ceux qui sont en compétition. Là.
Bonjour, voilà. Guillaume de Tonquédec.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour Eva.
Bonjour Guillaume.
On est ravis d'être en ligne avec vous, Guillaume de Tonquédec, cet après-midi. Alors, vous allez nous dire si vous reprenez le chemin des plateaux et à quel rythme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant le confinement, l'année dernière, vous avez tout donné en termes de tournage. Résultat, aujourd'hui, on vous retrouve non pas dans un, non pas dans deux, non pas dans trois, mais dans quatre films en VOD.
Oh oui, oui, c'est un 4 à la suite. Oui, ça, c'est bon.
Les 4 à la suite, L'Esprit de Famille, Place des Victoires, Let's Dance et Roxane. Ma première question est donc simple, Guillaume de Tonquédec. Est-ce que c'est pas trop dur pour un comédien quand le téléphone ne sonne pas?
Ah mais il a continué à sonner. Moi j'avais prévu le Covid-19. Je me suis dit, je serais présent quand même partout en VOD. Donc j'ai beaucoup tourné exprès.
Quel timing parfait.
Non, c'est un heureux hasard. Mais enfin j'aurais préféré évidemment tourner comme et jouer comme tous mes copains évidemment quoi.
Et est-ce que vous avez été impacté? On a reçu des acteurs dont le film a été annulé, la sortie reportée. D'autres, le film est sorti juste avant comme Elise et Moon. Il a pu faire plein d'entrées. Oui. Vous étiez dans quelle catégorie? Il y avait des films qui devaient sortir là ou c'était finalement une période creuse pour vous entre guillemets pour les sorties de films?
L'Esprit de Famille était sorti peu de temps auparavant, il a quasiment fini sa carrière en salle et donc ils ont accéléré sa sortie en VOD pour que les gens puissent en profiter pendant le confinement. Sinon j'avais pas de film sorti, enfin prévu là en sortie. Par contre je devais jouer au théâtre, donc répéter à partir du mois de mai Le Mariage de Figaro pour le théâtre Antoine. Ça a été annulé et reporté, on espère dans un an. Mais est-ce que l'ensemble des théâtres auront les reins suffisamment solides pour pouvoir jouer encore des pièces à beaucoup de personnages, même dans un an, c'est une vraie interrogation, une vraie angoisse pour tout le monde.
Sinon, vous jouerez tous les rôles vous-même.
Oui, vous-même.
Vous pouvez le faire. Hein, comme il faisait dans la compagnie de Shakespeare à l'époque, je crois. Hein, donc,
oui,
voilà.
C'est vrai.
Ouais.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Guillaume de Tonquédec est partout sur vos écrans. Quatre films dans lesquels il joue sont disponibles en VOD. L'Esprit de Famille, Place des Victoires, Let's Dance et Roxane. Ma première question est simple, lequel vous préférez?
C'est dur, c'est horrible. Non,
alors, je reformule, dans lequel vous préférez? C'est-à-dire où vous trouvez vraiment, bon, excellent.
C'est encore plus dur, ça.
Soyez un peu immodeste.
Excellent. Ah oui, je parlais de moi à la troisième personne bientôt. Non, c'est une question d'écriture. En fait, très honnêtement, sans langue de bois, j'adore ces quatre films. Parce que aussi, ce sont des personnages très, très, très différents. Et peut-être que le dernier, L'Esprit de Famille, où je joue un père un homme qui perd son père et qui doit faire son deuil, qui est une façon très tendre et avec beaucoup d'humour et d'émotion de traiter ce sujet m'a particulièrement bouleversé. Oui, c'est vrai. Pour être honnête, j'aime beaucoup ce film. Voilà.
Et moi, j'ai envie que vous nous parliez un peu de Roxane, le film avec la poule. Parce que là, je comprends pas comment vous avez réussi à tourner un film avec une poule dans tous les plans. Ça devait être impossible de jouer la comédie avec une poule. Comment elle pouvait se contrôler?
Ben, déjà, le scénario m'a emballé parce que c'est plein de poésie. Ça parle d'un agriculteur et Dieu sait si le sujet est devenu à la mode depuis, qui risque de perdre son entreprise parce que c'est un petit éleveur de poules pondeuses et il va décider de s'emparer des réseaux sociaux parce qu'il a un petit talent pour le théâtre, pour essayer de faire des vidéos un peu foireuses, pour être très honnête, avec ses poules où il les met en scène pour essayer de toucher les gens et qu'ils viennent acheter ces œufs-là et pas les œufs de la grande distribution. Donc le personnage est très poétique, il a toujours caché ce talent parce que ça lui est tombé dessus quand il avait 16 ans, l'amour de la littérature, mais comme ça n'est pas, il a pas été à l'école très longtemps, il avait honte de cette chose comme ça caché en lui. Et il m'a beaucoup touché parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre à lire et à écrire, curieusement. Et maintenant, je travaille avec les mots tous les jours. Donc ce personnage m'a beaucoup ému. Et puis évidemment le fait de travailler avec des vraies poules, là ça c'était extraordinaire quoi. Ce sont de très bonnes comédiennes, elles ont des caprices aussi et c'était très 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 amusant à faire quoi. Il y avait quand même 16 000 poules figurantes, c'est le plus gros budget du cinéma français
en termes de figuration.
Et puis Roxane la poule vedette quoi, qui était extraordinaire et pour la petite histoire, je l'ai adoptée, elle est dans mon jardin à l'heure où je vous parle. Oui, c'est vrai.
Elle fait des œufs ou vous
elle pond des œufs.
D'accord, et vous comptez la laisser vivre longtemps?
Ah bah le plus longtemps possible. Elles pondent pas toute leur vie mais je la garderai.
Guillaume de Tonquédec, est-ce que vous avez déjà fait un film dont aujourd'hui vous diriez que vous n'avez pas forcément aimé ou vous n'avez pas aimé le personnage?
Mais qu'est-ce que vous embêtez mon Guillaume là?
Il est toujours formidable.
Ouais. Non mais c'est une bonne question parce que c'est... Franchement j'ai une chance folle, c'est-à-dire que je viens du théâtre, j'ai toujours beaucoup travaillé au théâtre et quand la popularité m'est tombée dessus grâce à Fais pas ci, fais pas ça et Le prénom, j'ai pu avoir le choix enfin et j'ai choisi à peu près que ce que je voulais quoi. On m'a beaucoup dit non et maintenant c'est moi qui dis non, donc c'est quand même bien, une chance de pouvoir choisir en fait ce que je veux faire. Et le fait d'être allé partout, au théâtre, au cinéma, à la télévision, à la radio aussi, faire des pièces radiophoniques, même faire du doublage, j'ai même fait de la publicité, j'ai dit oui à tout par enthousiasme et par envie de travailler quoi. Donc j'assume tous mes choix.
Malgré le succès qui est le vôtre, qui est phénoménal aujourd'hui, vous restez quelqu'un qui doute, c'est peut-être une force hein, dans ce métier pour rester un bon acteur. Sur Roxane, vous dites que vous avez hésité à accepter le rôle. Je tenais à être totalement crédible, ma hantise c'était d'être perçu comme Tonquédec déguisé en paysan.
Oui, parce que le sujet m'avait beaucoup touché, puis j'ai rencontré des agriculteurs qui m'ont parlé de leurs difficultés. Là, tout d'un coup, ça devient réel et vous êtes un peu leur porte-parole. Donc, je me devais de les respecter, quoi. Donc, de ne pas me tromper. Puis, je voulais pas qu'on voit un acteur parisien déguisé en paysan breton, quoi. Ça aurait été une insulte pour eux. J'en avais pas du tout envie. Et puis, en plus, je pense que le spectateur, il a un sixième sens. Si vous vous moquez de lui, si vous en faites trop, si vous êtes caricatural, il décroche. Vous perdez l'histoire, alors que si vous réussissez à les toucher, vous pouvez les emmener où vous voulez, quoi. C'est assez extraordinaire, quoi. Donc c'est vraiment le premier travail de l'acteur, c'est d'être au moins juste. Après, il peut devenir dingue.
Ça vous aime aussi, et nous aussi. Il est partout, et pourtant, on ne s'en lasse pas. Guillaume de Tonquédec reste avec nous.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et les journalistes d'Europe 1. Alors, nous sommes tous confrontés à la galère, de la chaussette orpheline ou à l'étrange phénomène de la disparition des petites cuillères. Chez soi ou dans les entreprises, ces objets se volatilisent. Où passe-t-il? Eh bien, des chercheurs se sont intéressés à ce triangle des Bermudes. Explication avec Alain Sirou.
Il est le plus déjanté des scientifiques français. Comme tous les chercheurs, son carburant, c'est la passion de la découverte, l'obsession de la connaissance.
Ouf de gnôle, un petit coup de gnôle aussi. Oui. C'est vrai que c'est un peu.
Et un peu de gnôle aussi. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Cet après-midi, Alain, vous allez nous apporter enfin une explication scientifique à un mystère qui nous concerne tous. Pourquoi les clés disparaissent-elles et pourquoi tant de chaussettes finissent-elles orphelines?
Mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment objets inanimés. Pourquoi est-ce que vous faites la malle? C'est pourquoi est-ce que des objets disparaissent? Et j'ai pris deux objets qui sont l'objet d'études scientifiques, qui sont absolument extraordinaires. C'est les petites cuillères et les chaussettes orphelines. Alors, pour les petites cuillères, comme pour les chaussettes d'ailleurs, mais d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que notre intuition que les petites cuillères disparaissent est une réalité? Et là, c'est extraordinaire.
Quand on en a 8 et quand on n'en a plus que 5, on sait bien qu'elles ont disparu.
Oui, concrètement.
Alors, c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai tout le temps, vous voyez? C'est ça le sujet, quoi, en fait. Les études scientifiques ont montré que finalement, les petites cuillères disparaissent assez facilement dans les collectivités et aussi dans les maisons, mais surtout dans les collectivités. Et en particulier, des chercheurs ont d'abord démontré la quantité. Et c'est pas une plaisanterie, Mathieu. C'est-à-dire que les objets qu'ils avaient surveillés, les petites cuillères, 80% d'entre elles avaient disparu au bout de 3 mois. Vous vous rendez compte? 80% d'entre elles.
Encore plus que chez moi, 80%? Mais parce que les gens les
volent. 80% des petites cuillères avaient disparu dans les cafétérias, qu'ils qualifiaient carrément de triangle des Bermudes des petites cuillères. Alors, tout en remarquant que c'était la même chose qu'elles soient en plastique ou en argent, c'était pareil. Donc, l'idée, c'était que finalement, il fallait renouveler très régulièrement ce stock. Ça, c'est vraiment la première observation scientifique.
Mais pourquoi elles disparaissent, Alain? On veut savoir, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent?
Il y a deux réponses. La première, c'est que c'est un phénomène universel. Et la deuxième, c'est que si on admet que les petites cuillères ne disparaissent pas pour faire fuir l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les objets pourraient avoir peur des hommes et finalement être obligés de disparaître. Alors,
Alain,
on est obligé d'admettre
qu'il se passe... Allonger la gnôle avec un peu d'eau quand même, parce que là...
On est obligé d'admettre qu'il se passe des choses extraordinaires. autour de la machine à café. C'est-à-dire que la machine à café, c'est l'endroit où apparaissent, disparaissent des idées, c'est là où naissent des entreprises, c'est là où finalement se nouent des relations. Et ben, le mouvement naturel, quand on pense, quand on réfléchit, quand on aime, c'est d'oublier les petites cuillères. Elles partent à la poubelle, tout simplement. Elles sont ignorées, jetées. Elles disparaissent sans même qu'on s'en rende compte, tout simplement parce qu'on pense à autre chose et elles n'existent plus. Ça, c'est la raison pour les petites cuillères. Pour les chaussettes, d'abord les faits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors très clairement, on s'en rend compte chez nous, c'est sûr. Et les scientifiques, qui ont fait de nombreuses études sur le sujet, confirment aussi que finalement, elles disparaissent de façon extrêmement importante. D'ailleurs, plus le nombre de personnes est important dans un foyer, plus le nombre de lavages est important, plus elles disparaissent. Et tenez-vous bien, là, ce sont des études anglaises qui concernent à peu près 2000 personnes pendant 3 ans. Chaque personne perdrait en moyenne 15 chaussettes par an. Ça fait 1264.
Ça me paraît normal, oui. Ah, c'est ça.
Hein. Ouais, ça fait 1264 par, dans une vie. C'est-à-dire quand même 3200 euros au bout du compte.
Est-ce qu'elles ne sont pas aspirées par la machine à laver? Oui. Moi, c'est ma théorie. Elles sont quelque part.
Sinon, vous auriez bouché votre machine.
Les, comment dire, les observations montrent plusieurs choses. Tout d'abord, il y a celles qui chutent derrière un radiateur pendant leur séchage. Ah, les radiateurs sont des vrais triangles des Bermudes. Hein. Vous retrouvez effectivement des araignées qui habitent dans les chaussettes.
Je vais jeter un coup d'œil de ce côté-là.
D'autres sont égarés dans des meubles de rangement. Là, je peux vous dire que quand on déménage, en particulier, on retrouve des tas de chaussettes dont on ignorait qu'elles étaient encore, je dirais, présentes.
Vivantes.
Elles se cachent, quoi, en quelque sorte. Vous avez une troisième raison, qui est finalement un mauvais type de lavage. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des chaussettes blanches que vous lavez avec du linge couleur, ben, elles se transforment, elles prennent une autre couleur, et elles se sont séparées de leur boîtier.
C'est vrai, c'est terrible, elles deviennent un peu roses, c'est, si vous les mettez,
tout
et enfin, on ne sait plus comment les associer, puis on finit par les perdre. Voilà.
Exactement, et puis enfin, vous avez celles qui s'envolent après l'étendage, celles qui sont mises dehors, et puis il y a un coup de vent, ou un animal qui passe. On a vu régulièrement des oiseaux s'envoler avec des chaussettes, pour aider à faire
des nids. Oiseaux s'envoler avec des chaussettes, mais c'est quoi votre gnôle? Vous nous donnerez vous le faites vous-même? Vous êtes un bouilleur de cru? Comment ça se passe?
Le calvados, vous savez, dans le Perche, c'est assez connu, hein.
Je vois que avec modération, Alain,
les oiseaux avec
qui s'envolent avec des chaussettes. Si vous voyez un oiseau avec une chaussette dans le bec, envoyez-nous une photo en report.fr parce que vraiment. Oui, Alain.
Ce qu'il faut marquer, c'est que toutes ces études, en particulier les plus documentées qu'on trouve sur les chaussettes, ont été sponsorisées par la marque Samsung qui commercialisait une machine à laver avec un hublot spécial pour savoir où passer les chaussettes pendant le lavage.
Donc parce qu'il y avait des gens qui doutaient.
Exactement. Donc c'est aussi un argument commercial, mais quand même, au bout du compte, vous vous rendez compte que, objets inanimés, avez-vous donc une âme? Eh bien, peut-être parce qu'elles sont capables de s'envoler quand on ne les regarde pas.
Oh, il termine poétique. Merci Alain Sirou. Belle chronique. Néanmoins, on connaît votre fair-play. Un petit mot sympa pour Jean-Philippe Ballas.
As all.
Oui, il dit qu'il vous adore, Jean-Philippe, vous adore.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent, Axel de Tarlé, dont on va découvrir le sujet. Ce lundi, sur Europe 1, lundi, il a attiré notre attention sur les États-Unis et Wall Street en particulier.
1929, 1973, 2008, 2020, à chaque crise, le modèle capitaliste nous montre à quel point il est performant. Notamment grâce à une formidable déconnexion des marchés financiers et de l'économie réelle. On en vit actuellement la caricature, près de 100 000 morts aux États-Unis, plus de 20% de chômage, un recul du PIB estimé à 30%, et pendant ce temps-là, la bourse qui bondit de 30%. C'est vraiment bien fichu. Pour nous expliquer ce qui, de loin, pour des nuls en économie, ressemble à une aberration, notre expert éco, Axel de Tarlé, pas mécontent d'être de retour en studio parce qu'à la maison, gérer les gosses, la cuisine, tout en faisant sa chronique, c'était pas simple, comme on avait pu le constater mercredi dernier.
Ah tiens, épluche les patates.
Qu'est-ce que vous susurrez, Axel de Tarlé? Ça reste de la radio, parlez fort.
Oh, c'est terrible, j'ai dit à ma fille, épluche les patates.
Et oui, c'était les joies du confinement. Alors, Axel,
elle avait fait ou pas?
Ah bah non.
Elle
n'a
pas fait.
C'est moi qui ai épluché les patates.
Vous épluchez les patates en faisant la chronique économique.
Ah bah
quoi, vous auriez pu le faire pendant. Axel, expliquez-nous ce qui se passe aux États-Unis. Le PIB plonge, on l'a dit, on va vers 100 000 morts et le chômage pourrait grimper jusqu'à 25% d'après les estimations. Mais la bourse, elle, s'en fout.
Exactement, la bourse américaine a rebondi de 26% depuis la mi-mars. Mais pareil pour la France, hein, plus 14%. Alors pourquoi? D'abord, il y a un premier phénomène qu'on appelle le phénomène FOMO. Alors, FOMO, je vais vous expliquer ce que c'est, contrairement à MILF, je ne sais toujours pas ce que c'est. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Ça veut dire, c'est la peur de rater quelque chose. C'est ce qui s'était passé en 2008-2009. Si vous voulez, quand la bourse baisse, fatalement, à un moment, elle remonte. Bah, si vous arrivez après la remontée, c'est trop tard.
Donc, on se précipite pour
Donc, on se précipite pour pas rater la remontée. Du coup, comme tout le monde se précipite, bah, ça provoque la remontée. Voilà. Il y a la deuxième chose, il y a un deuxième phénomène qui explique cette remontée de la bourse. Eh bien, ce sont ces centaines de milliards que les banques centrales déversent pour soutenir l'économie, qui se retrouvent d'ailleurs en partie dans les livrets A et en épargne des Français. Vous savez qu'on a parlé d'une épargne forcée, puisque les Français n'ont pas pu dépenser. Et curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, en avril, il y a eu 150 000 nouveaux petits porteurs, des jeunes, qui sont allés en bourse, qui se sont dit « Tiens, la bourse s'est écroulée. »
On y va.
Ouais, et c'est le moment d'y aller. Et puis, il y a un troisième phénomène, alors qui explique pourquoi c'est surtout Wall Street qui a rebondi deux fois plus vite que la France, c'est qu'aux États-Unis, vous avez maintenant GAFA. En fait, la bourse, c'est maintenant GAFA. C'est Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Ces cinq entreprises représentent, j'avais noté le chiffre, 25%, 22% de l'indice boursier américain. Ah oui. Si vous voulez, ces cinq entreprises, elles représentent quatre fois l'ensemble de notre CAC 40. Pourtant, notre CAC 40, c'est pas des PME. C'est L'Oréal, Sanofi, c'est du lourd, LVMH. Eh bien, ces cinq entreprises à L5 pèse 4 fois plus. Et elles ont été renforcées par cette crise. Vous savez que Netflix, un site internet qui diffuse des vidéos, vaut maintenant plus cher en bourse qu'ExxonMobil. Donc voilà, c'est trois phénomènes. La peur de manquer, l'argent qui coule à flot des banques centrales et le succès des GAFA expliquent la remontée de la bourse.
Mais est-ce que, d'après ce qu'on a vu dans les autres crises, est-ce que ça va perdurer ce mouvement haussier de la bourse ou au contraire, est-ce qu'il pourrait y avoir, comme avec le coronavirus, une deuxième vague? C'est-à-dire que ça pourrait retomber.
La bourse anticipe. Là, elle anticipe un scénario rose. Il est évident que s'il devait y avoir une deuxième vague, eh bien, il y aurait un coup de bambou sur les marchés et, à mon avis, une rechute. Ça sera peut-être l'occasion d'une autre chronique.
Et question subsidiaire, si vous avez la réponse, Axel. Hein. Je ne sais pas du tout pour
vous
piéger.
Je suis très content de voir que ma chronique vous intéresse au moins autant que la chronique coquine d'Anissa.
On aime le sexe,
Vous disiez que les jeunes ont investi en bourse.
Oui.
Est-ce qu'on sait vers quel type d'entreprise ils ont acheté des actions ou pas du tout?
Alors, en fait, il y a plusieurs façons d'aller en bourse. Soit vous achetez des actions directement parce que ça vous intéresse, vous achetez des entreprises. Mais en ce moment, il y a le gros truc qui est à la mode, c'est, vous savez, en assurance vie, on vous dit arrêtez de faire les fonds euros là. Les fonds euros, on prête aux États. Et comme les taux sont à zéro, ça ne rapporte plus rien, parce que les États s'endettent à 0%. Ça veut dire que ceux qui ont prêté gagnent 0%. Donc on dit allez plutôt en assurance vie, en actions. Et là, ce sont des paniers de différentes actions françaises ou européennes.
Mais c'est des paniers qu'on vous propose, en fait.
Ouais, qu'on vous propose et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans.
Ah,
ça s'appelle fonds eurodynamiques, vous voyez, des trucs dans ce genre.
Oui, formule offensive, dynamique plus. Ça.
Ah, on voit qu'il y en a qui sont au courant.
Et du coup, c'est une référence au film Podium. J'ai pas d'action.
En général, on ne vous dit pas trop que c'est de la bourse parce que la bourse fait peur.
Oui, voilà. On n'a pas une obligation légale de vous dire
non,
c'est de la bourse.
C'est dynamique, c'est vers les entreprises.
C'est très dynamique, vous pouvez tout perdre. Merci Axel. Anissé, une réaction à la chronique de votre rival. Oui, il l'a fait.
Bravo. 16h, 18h.
La bonne humeur qui se poursuit sur Europe 1, il est 16h30. Toujours des infos et toujours les sujets de nos journalistes sur Europe 1. On est toujours aussi avec Mathieu Noël. Juste après le sujet de Nathalie Chevance, eh bien, on redécouvrira, on réécoutera un quiz du 12 septembre dernier lorsqu'Eva Rock était confrontée à Denis Brognard dans un vrai faux sur les performances physiques inhumaines.
La compétition continue dans cette deuxième manche et on prend tout de suite la direction de la cité phocéenne. Marseille, où nous attend Nathalie Chevance pour parler Covid-19 et mode. Car oui, à Marseille, certains créateurs futés ont eu l'idée d'agrémenter les masques de motifs, mais aussi de messages, ou mieux, d'expressions marseillaises cultes comme « t'approche pas fada »,« on craint des gains », ou encore, j'imagine, le classique
« Paris, Paris, on tend ».
Il est disponible ce modèle-là, Nathalie, ou pas?
Non mais vous avez tout dit déjà. Non mais non Mathieu, vous m'avez cassé tout mon effet. Non là je suis pas contente. Bon, déjà faut que je vous dise quelque chose. Oui. Moi je vous parle de masque, mais je vous parle de masque lavable, utilisable plusieurs fois, aux normes AFNOR, fabriqué en France. dont la première utilité, c'est quand même de protéger.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
C'est pas des masques fantaisie, quoi.
C'est pas carnaval.
Pas du tout.
Hein.
Non, c'est pas carnaval. Alors, faut quand même bien se rendre à l'évidence que ce masque, il va plus nous quitter, en tout cas pendant quelques mois. Mmh. Autant qu'il soit agréable, joli, drôle, humoristique. Et c'est là, forcément, que les Marseillais sont très forts, très, très forts. Avec, bien sûr, leur identité sudiste, avec toutes les expressions. Et l'idée, c'est donc d'afficher les plus pertinentes, quand même, dans le contexte sanitaire actuel. Du coup, ça donne ça. T'approche pas Fada, ce qui veut dire
bon,
Mathieu.
Tu es fou, ne t'approche pas.
Tu es fou, ouais.
Voilà, geste barrière, là, on le voit.
Geste barrière, c'est vrai.
Oui. Fini les gâtés.
Ah, ça, je sais pas ce que
les
ça veut
bisous.
Dire. Ah, c'est les bisous, les gâtés.
Bah oui, les câlins. Fais-moi un gâté.
Ah oui.
Voilà, donc fini les gâtés. Donc là, c'est.
Ah ben, je comprends mieux. Une meuf m'avait dit ça en été, j'avais pas compris. Moi, j'ai vu qu'elle voulait un gâteau.
Non, mais c'est pas des expressions n'importe quoi que je vous donne. C'est vraiment dans le contexte actuel. Je crains des gains.
Ah, je crains personne.
Ça, je sais, parce que ça, c'est la devise de l'OM.
Ouais.
Mon club de cœur.
Des gains, c'est personne. Ouais. Forcément, je suis masqué, donc forcément, je crains personne. Et la petite dernière qui s'affiche, parce que là, vous fanfaronnez, La petite dernière qui s'affiche en ce moment sur les masques, un peu plus dur à décrypter. Méfie, j'ai le skimfus.
Méfie-toi, j'ai. Ah, bah non, je sais pas.
Le skimfus.
Le skimfus. Le skimfus, c'est le virus.
Non, méfie-toi, je suis malade. Mais en fait, skinfus, c'est une maladie un peu imaginaire. Vous savez, le Marseillais qui adore.
Ah,
voilà.
D'accord.
Voilà, donc c'est toujours on rigole,
j'adore celui-là.
Tu peux le sourire.
Ah ouais, c'est pas mal.
Méfie, j'ai le skinfus. Alors, vous l'avez donc compris. L'objectif, c'est de sourire, de rire. Oui, mais avec les yeux. Bah oui, forcément, on ne voit plus.
Et oui, on voit plus
le visage. On est masqué. Voilà. C'est dédramatisé. Et cette idée, c'est celle de David Darmon Bonifaci, qui est le créateur de la marque Je viens du Sud.
Quand vous voyez un masque avec marqué t'approche pas Fada, ça va très bien avec le masque parce que l'expression parle, mais en même temps, c'est très humoristique et c'est très décalé. Après, je pense qu'on est dans une période de déconfinement. On est tous stressés. Bon, voilà, on va être obligés tous de porter un masque. Ça va être obligatoire. Est-ce qu'il vaut pas mieux porter un masque déjà joli? Puis en plus de ça, de croiser quelqu'un avec le masque et il lit j'ai le skinfus ou fini les gâtés, tout de suite, ça va le faire rire. Même si on le voit pas, s'il porte un masque, on sourit qu'avec les yeux, avec un masque. Mais voilà, il faut, je pense, prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, tout en se protégeant. Faut pas oublier aussi qu'on vit une période compliquée, mais on reste fiers de notre façon de parler.
Et oui, fiers d'être marseillais.
Et voilà, ce parler, ce phrasé marseillais qui fait quand même travailler plus de 500 personnes dans une usine du côté de Valence, sachant que des milliers d'unités ont été vendues en quelques heures, partout dans le monde, jusqu'au Canada. Même les soignants de l'hôpital Nord en réclament. Une autre production a été lancée avec de nouvelles expressions marseillaises à découvrir là très bientôt sur les masques.
Et alors, ça, c'est pour les masques avec des messages. Mais plus généralement, ces masques ils vont devenir un incontournable de nos dressings.
Ben oui, surtout qu'en cas malheureusement d'une nouvelle vague épidémique. Et d'ailleurs, les créateurs y ont pensé il y a déjà quelques années. En 2018 à Marseille, on voyait des mannequins défiler avec des masques originaux. Alors, soit couture, soit solidaire, c'est-à-dire en matière recyclée. Le masque devient un peu notre identité, le moyen de révéler notre personnalité, comme l'explique Gina Luciani, qui est la présidente de la Maison de la Mode à Marseille.
C'est essayer de faire en sorte de l'intégrer d'une certaine manière pour pas qu'on se sente avec un accessoire usurpé. Donc, on est en train de l'intégrer, comme par exemple la veste parka, qui était une veste d'urgence auparavant, a pu être intégrée en tant que veste de tous les jours. Donc je pense que l'intention de tous ces créateurs, c'est de l'adapter à une vie quotidienne nouvelle. D'une certaine manière, c'est un accessoire. C'est comme porter un accessoire, comme porter un sac, porter des chaussures particulières. Donc on peut mieux s'affirmer en portant le masque. Je pense que c'est quelque chose qu'on va effectivement adopter, de mettre un masque en toute situation, même à la plage.
Nathalie, pardon, pour la petite question, parce que vous interrogiez quelqu'un du musée de la mode, la directrice du musée de la mode, est-ce que le musée va rouvrir ou c'est pas du tout à l'étude pour l'instant? Pardon pour la question.
Alors, le musée, pas pour l'instant, la maison de la mode, elle, reste ouverte parce que c'est aussi une école. Voilà.
D'accord. Ah oui, une école, oui, pour apprendre
absolument, les métiers de la mode.
Il y a un truc qui manque dans tout ça, c'est le masque waterproof. Pour cet été à la plage.
Ah oui, voilà. C'est vrai.
Vous allez faire un carton.
Mais ouais, parce que effectivement,
on va créer ça, la marque avec Eva. Qu'est-ce qu'on va créer vite? On le dépose à
la présidente Gina Luciani parlait du masque sur la plage, mais vous savez qu'il y a déjà les maillots de bain avec le masque assorti.
Ah, ils y ont pensé. Ah, oui, alors,
oui. Moi, je l'ai vu. Hein.
Ah, oui, bon. Mais pas waterproof, Mathieu.
Non, il n'est pas waterproof. Alors, en tout cas, ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il y aura forcément des collectors. Il y aura des masques collectors. Et ces masques, bah, ils feront peut-être le bonheur du MUSEM. Vous le connaissez peut-être, c'est le musée des civilisations à Marseille. Et ben, ce musée est justement en train de récolter en ce moment tous ces objets en lien avec le Covid-19 dans le but d'en faire une exposition.
Ouais, c'est malin.
Eh bien,
c'est
comme ça, malin. Ça vous fera une autre chronique. Merci beaucoup, Nathalie Chevant. Serez-vous la grande gagnante du jour ? Réponse juste avant 18h.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Les plus grands esprits contemporains s'y sont frottés un jour ou l'autre. Le quiz de Culture G. Pour certains, ça a été dur.
Quel savant ? Quel est ce savant ? Natif ? Oui, savant de Marseille.
Mais pour d'autres, Eva, ça a été encore plus dur.
Oh putain.
Eh oui, chaque jour, Eva Rock affrontait l'invité dans un quiz redoutable sur un domaine où l'invité était incollable et elle, complètement nulle. Le résultat était rarement une surprise, souvenez-vous. Voici qui veut gagner un set de table à Alain Aco. Denis Brognard, en hommage à l'épreuve des poteaux, en particulier, et au sadisme en général qui règne dans Koh-Lanta, le quiz portera...
Non, arrêtez de parler de sadisme, Mathieu. S'il y a bien un mot que je déteste, et c'est celui-ci. Gardez-le pour votre émission.
Vous allez voir.
Sur le fait de départager vos chroniqueurs.
Vous n'y échapperez pas quand même. Un quiz sur les performances physiques inhumaines. C'est un vrai faux. Vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Denis, Guy Yang s'est suspendu à une perceuse accrochée au plafond. Plus il appuyait sur la gâchette, plus il tournait vite. Il a fait 141 tours en une minute. Vrai ou faux?
Ça veut dire plus. Ça veut dire près de 3 tours par seconde. C'est un truc de dingue. Allez, parce que ça m'amuse, je dis vrai.
Et vous avez raison. Il a réalisé cette performance totalement inutile à la télévision allemande, où on voit décidément de belles choses. Il était d'ailleurs opposé à un Français qui n'a réussi, lui, à faire que 83 tours.
Même. Ça peut être une prochaine épreuve de Koh-Lanta.
Mais voilà, pourquoi pas. Je vous fournis des idées clés en main.
Moi, je préfère ça à la roulade. Hein, parce que...
Ça devrait plus plaire aux téléspectateurs. Eva Rock, Joseph Todling est autrichien. Et il a le record de la plus longue distance parcourue tirée par terre par un cheval alors qu'il était en feu. Joseph, pas le cheval. D'après vous, est-ce vrai ou faux?
Mais non, le pauvre garçon en feu, non, c'est faux ça. C'est horrible comme histoire.
Mais n'oubliez pas qu'on est en Autriche. Tout est possible, la réponse est vraie.
C'est pas vrai.
500 mètres, record impressionnant, même s'il est le seul à avoir tenté de le faire. Joseph est cascadeur professionnel, il a également le record de durée en torche humaine sans assistance respiratoire. 5 minutes 41, il y a vraiment des fous. Attention,
ça me rappelle un candidat de Ninja Warrior qui était arrivé et qui nous avait fait la démonstration. Il était champion du monde du cassé de noix avec ses fesses.
Oui.
Alors attention, vous répondez ensemble les amis. Une question, trois propositions. En juillet dernier, France 3 a consacré un reportage très impressionnant à Jimmy Defresne, un Belge de 48 ans. Quel record a-t-il établi ? 1. Il est resté 120 heures assis sur des toilettes. 2. Il a joué du clairon en faisant le cochon pendu pendant 3 heures. Ou 3. Il a mangé son poids en frites en 8 jours.
Moi j'ai dit 3.
Les frites en Belgique, en 8 jours.
Ah oui, moi j'aurais dit le clairon en cochon pendu là.
Fiasco total pour vous. C'était la réponse 1. Il est resté 120 heures assis sur des toilettes.
Bah,
c'était pour la bonne cause. Il faisait payer. Ben, essayez de rester 120 heures sur les toilettes.
Bah, vous dormez, c'est pas grave.
Vous dormez sur les toilettes, mais qu'est-ce que vous racontez?
Bah, vous pouvez dormir assis, donc c'est pas un exploit.
Il faisait payer les gens qui se prenaient en photo avec lui sur les toilettes. Il a récolté 250 euros pour une offre caritative. Ben, 250 euros en 120 heures.
Oh, il est pas très fort.
Il aurait pu récolter
même,
plus. Hein.
Vous savez à quoi ça fait penser? Vous avez vu ce film avec Poulvord, Les convoyeurs attendent?
Ah, oui.
Hein, on était en Belgique déjà.
Ouais.
Et là, ce type voulait, il était garde barrière et un peu journaliste. Et il avait l'objectif de rentrer dans le livre des records, mais il n'avait aucune compétence. Et il avait demandé à son fils adolescent de passer le plus de fois une porte d'un côté et de l'autre pendant 24 heures. Et il avait monté un châssis de porte dans son jardin. C'était terrible.
Je vous recommande ce film dont vous entendez de temps à autre des répliques dans notre émission.
Ouais, j'adore. Eva en noir et blanc, magnifique.
C'est un soldat de la marine chinoise qui a le record de non-clignement des yeux. Il a réussi à rester 57 minutes sans bouger un cil. Vrai ou faux?
Ah, j'irai vrai, mais c'est horrible.
Et c'est vrai, Eva.
Ah ouais.
Il est technicien balistique, il a tenu 57 minutes et 24 secondes. Le précédent record était de 40 minutes. Denis Brognard, attention, c'est la question qui va vous départager. À 66 ans, Shelby Morris vit à Memphis. Elle a battu un record en mars 2014. Elle a mangé 17 œufs, mais avec la coquille.
Oh,
vrai ou faux? Denis, tout se joue là.
Ouais, je sais, Mathieu. Franchement, depuis le début, il n'y a que des bonnes réponses. Il fallait toujours dire vrai.
Ouais.
Donc, je vais continuer à dire vrai. Si vous me dites que c'est faux, je le prendrai très très mal. Donc, je dis vrai, mais je ne comprends pas comment on peut bouffer autant d'œufs avec des coquilles. Mais bon.
Eh bien, je vous dis faux, Denis. Eh oui, C'est comme ça. Ouh, il est génial ce jingle lose. Qui gagne le quiz?
On a égalité.
Égalité parfaite. Personne ne remporte le set de table à l'un coup. C'est dommage.
On m'a reproché très souvent ça.
C'est-à-dire
le égalité parfaite. Une égalité est forcément parfaite.
Ah oui,
c'est vrai, c'est juste. Oui. J'ai dit égalité
parfaite.
Que,
mais moi je disais souvent
c'est parce
ça
que
aussi.
Égalité parfaite. J'ai trop regardé Koh-Lanta,
ben
ça doit être pour ça.
C'est ça.
Et notamment l'épreuve de la roulade.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Elle est l'animatrice de l'émission La Maison des Maternelles, consacrée à la parentalité, diffusée sur France 5, du lundi au vendredi, dès 9h, Agathe Le Caron, et est en ligne avec nous le 15 mai dernier, invitée donc de Mathieu Noël sur Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures au service de votre culture G et surtout en ce moment de votre quotidien. Un quotidien chamboulé pour beaucoup d'entre vous par la présence permanente et souvent gluante de ces petits êtres malicieux qu'on appelle les mioches. Plus vorace que le suricate, plus perfide que la hyène, le mioche doit être l'objet d'une attention constante sous peine que justement vos objets n'y survivent pas. Heureusement, les réponses à toutes les questions que vous vous posez en tant que parents sont dans l'excellente émission La Maison des Maternelles tous les matins à 9h sur France 5, présentée par la non moins excellente Agathe Le Caron qui est avec nous en ligne cet après-midi. Une fille géniale, très cash, hein. Ce qu'on aime particulièrement chez vous, c'est ce côté sans filtre, notamment avec vos collaborateurs, Agathe. Eva, vous vous plaignez souvent que je vous tacle, mais sachez que j'ai trouvé mon maître. C'était lundi, vous échangez avec Marie, l'une de vos chroniqueuse.
Êtes-vous épilée, Marie? Parce que ça, c'est une grande question du confinement.
On a fait ce
quand je vois vos chaussures, j'ai de gros doutes. Hein. J'ai pas envie de regarder votre sous-bras quand je vois vos crocs. Hein.
Eh ben, vous êtes encore pire que moi, Agathe.
C'est vrai que vous êtes un peu mon maître à penser.
Voilà,
mon
c'est ça.
Et voilà.
Dans votre émission, toutes ces questions que les jeunes parents se posent, alors j'imagine que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de questions. Vous nous parliez des femmes enceintes qui étaient effectivement un peu les oubliées. On ne savait pas trop ce qu'elles devaient faire. Quelles questions les plus étonnantes vous avez reçues pendant cette période?
Bah, j'en ai reçu une formidable ce matin, qui est pourquoi est-ce que tous les gens portent des masques? Alors je pense
non,
que c'était...
c'est pas possible.
Non, je pense que c'était une vanne, mais on s'est quand même demandé parce qu'il n'y avait pas de débrief quoi. Donc c'était bonjour, je remarque que tout le monde porte des masques. Pourquoi? Bon là, non. Et puis on a eu aussi, oui, on s'est fait engueuler la semaine dernière. Il y avait une dame qui nous a envoyé sur les réseaux qu'on parlait pas du tout des femmes enceintes. C'était scandaleux. Bon bah ça fait quand même
deux mois qu'on en parle
non-stop. Donc
et
voilà.
Est-ce là un vrai débat de société actuellement, c'est le retour à l'école.
En tant
que parent, on se pose la question quand on peut les renvoyer à l'école, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on a peur, j'imagine que ça c'est une question qui revient beaucoup actuellement.
Alors là en ce moment on a que ça, c'est les retours à la crèche, les retours à l'école, et on essaye d'y répondre d'abord avec des scientifiques qui nous ont quand même beaucoup rassurés, donc je vous invite à regarder les replays parce que si vous êtes stressé c'est vraiment vachement bien. Et puis on a un pédiatre, et puis on a des directrices d'école. Ce matin on avait une directrice de crèche qui nous a expliqué comment est-ce qu'ils arrivaient à maintenir les gestes barrières, la distanciation entre des bébés, ce qui paraît absolument infaisable. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a les règles, et puis après, dans la pratique, c'est assez assoupli, et c'est vachement rassurant, et d'un point de vue santé, et d'un point de vue psychologique pour nos enfants, au point que moi, qui suis hyper stressée, je vous le disais tout à l'heure, j'ai remis mes enfants ce matin à l'école, parce que c'était leur rentrée.
D'accord, vous avez été convaincue par ce que vous ont dit les scientifiques. Eva?
Agathe, pendant l'émission, et pendant ces dernières semaines, vous n'avez pas été confrontée à des propos contradictoires, parce qu'on avait un scientifique qui disait telle chose, et puis le lendemain, autre chose. Est-ce que ça vous a posé des problèmes pour donner une information la plus juste possible?
Alors oui, de toute façon, je crois que ça c'est plutôt tout le temps quoi en fait. Hein, moi je remarque depuis que je présente les maternelles que j'ai un pédiatre qui dit blanc un jour et lendemain noir. C'est pas très rassurant. Déjà dans l'absolu, c'est pareil avec les psys, etc. Donc finalement, nous on propose plusieurs voies et puis après chacun fait son marché. Ça c'est en règle générale. Non, là je pense qu'ils ont été plutôt prudents. Donc nous, ce qui nous gênait, c'est qu'on n'avait pas de réponse à nos questions parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas. Donc là, ça a été l'enfer parce qu'on sentait que, ne serait-ce que pour la présence des conjoints, ça paraît un détail quand on parle de santé publique et tout, mais en fait non, enfin, psychologiquement pour une femme qui va avoir en plus son premier bébé par exemple, pas avoir son conjoint en salle d'accouchement, c'est un vrai sujet.
Bien sûr.
Ça fait peur d'accoucher, et en fait alors déjà une maternité n'était pas l'autre, ils n'avaient pas encore de recommandations, puis tout à coup il y avait une recommandation mais les maternités ne les suivaient pas parce qu'ils flippaient un peu, donc on a oscillé entre tout ça finalement on a beaucoup dit qu'on ne savait pas, hein. On a beaucoup dit qu'on n'avait pas de recul, mais je pense que ne serait que de parler d'elles déjà, de ces femmes enceintes, ça les rassurait, ça leur faisait du bien.
Agathe Le Caron, l'émission La Maison des Maternelles est un gros carton. Les gens veulent savoir. Et je veux dire, la France a le droit de savoir. Quelle est la part... C'est-à-dire que vous vous présentez, vous nous déculpabilisez en tant que parents, mais vous, est-ce que vous êtes comme ça dans la vie? Est-ce que vous jouez un personnage un petit peu, genre, pour nous déculpabiliser? Vous dites...
Tout va bien, je vais bien,
il y a des conseils
voilà.
que j'arrive pas à appliquer à mes propres enfants. Ou est-ce qu'en fait, vous êtes une mère parfaite et vous jouez juste un rôle?
Non, bah écoutez, de toute façon, quelle horreur les mères parfaites, quoi. Oh là là, ça fait des enfants qui sont chiants comme la pluie. Mais non, soyons imparfaits. Je veux dire, non, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement, comme toutes les femmes, en plus, j'ai eu mes enfants tard, donc je me suis collé une pression dingue. Je me suis dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Dès qu'il y avait le moindre enfant qui se rongeait les ongles, je me disais, psy, tout de suite et tout. Oula! Et je me suis rendu compte qu'en fait, on est les meilleures mères possibles et que c'est déjà formidable et que, voilà. Non, je joue pas un rôle. De toute façon, je suis incapable et c'est un gros défaut. C'est ce qui fait que j'ai jamais fait de prime sur TF1, enfin, un seul. C'est que je pense que je suis un peu trop, justement, spontanée. Et puis, bah voilà, au bout d'un moment. Et je pense que c'est ça que les parents aiment, justement, c'est que Benjamin Muller et Marie-Père Arnaud sont comme moi. On galère et on le dit, quoi. Heureusement.
Inquiète, Le Caron, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème à présenter la Maison des Maternelles? Est-ce que dans votre vie personnelle, quand vous croisez des copines, est-ce que c'est pas toujours la première question?
C'est
au fait, Agathe, alors, comme si vous étiez pédopsychiatre. Bah, quoi. Non,
mais... Alors, le premier truc, c'est sur le sommeil. Ouais, je t'appelle Agathe parce que mon enfant, en fait, voilà. Tu vois, il dort plus du tout, Oscar, c'est un cauchemar. Il se réveille 3 fois par nuit. Donc, du coup, je vais redonner des biberons. Donc, à ton ami, qu'est-ce que je fais? Mais je suis aussi sage-femme. C'est-à-dire que je rééduque les périnées, Mathieu. Oui, absolument.
C'est intéressant. Oui.
Je suis devenue la pro des varices vulvaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais sur Instagram, c'est hallucinant parce qu'en fait, les gens croient que je suis pédiatre et tout, donc c'est un peu compliqué.
Agathe Le Caron, entre toutes ces questions, toutes ces connaissances et tout cet humour, est-ce que vous n'avez pas eu envie d'écrire une série sur ce sujet?
J'ai eu envie, mais je pense que j'ai même fait une formation d'écriture en scénarii.
Ah oui?
Mais ouais, et puis en fait, je pense que c'est un manque de confiance et puis je pense aussi qu'il faut écrire à deux. Mais c'est vrai que j'ai pas.
Une sorte
malgré
de. Moi, je vous verrais bien. Je vous verrais bien écrire une sorte de Desperate Housewives, mais version.
Alors c'est marrant, vous disiez ça parce que je m'en parlais. J'en ai trouvé une de version de Desperate Housewives, mais sur la parentalité. Et on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et je l'ai faite parce que je pensais à vous, Agathe, et je me dis qu'il faudrait la version française, non? C'est la version américaine qui s'appelle Working Moms.
Un peu plus de boulot pour vous, Agathe, comme on trouve que vous bossez pas suffisamment.
Ben c'est ça, j'ai pas trop de boulot, quoi. Voilà.
Parce qu'en plus de la Maison des Maternelles, il faut également parler de ce podcast intitulé Ex. De quoi s'agit-il?
Absolument. Eh ben oui, effectivement, j'avais pas assez de boulot, Mathieu, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Non, alors moi, je suis une folle de podcasts, en fait. J'écoute des podcasts toute la journée. Beaucoup de podcasts d'Europe 1, d'ailleurs, que j'adore, qui est ma radio chérie.
Excellente radio, ça.
Excellente radio. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, il n'y a pas tellement de podcasts sur les histoires d'amour. Moi, ce que j'aime bien dans les podcasts, c'est que c'est un endroit où on entend plus d'intimité, en fait. Voilà. Sinon, il y a la télé, la radio. Mais là, j'ai pas l'impression que les gens se livrent plus. Et j'en ai pas trouvé un qui me plaisait. Alors moi, quand je trouve qu'il y a quelque chose qui n'existe pas, bah, je le fais. Voilà.
Vous l'avez fait. Ça s'appelle donc Ex et on peut retrouver ça où on tape Agathe Le Caron Ex et on
voilà, sur toutes les bonnes plateformes. Si vous ne trouvez pas Ex tout court, vous tapez Agathe Le Caron à côté et vous le retrouvez. Franchement, c'est vachement bien.
Et c'est plein d'histoires d'amour que des anonymes vous racontent.
Et qu'Eva adore écouter s'imaginant qu'elle les vivra peut-être un jour.
Exactement.
Ces belles histoires d'amour, Eva. On rappelle la Maison des Maternelles du lundi au vendredi à 9h sur France 5. Merci beaucoup, Agathe Le Caron.
Merci à vous deux, gros.
L'équipe est sauvage.
Et on se replonge dans les meilleurs moments de l'émission avec Mathieu Noël et son acolyte Eva Rock qui continue sa sélection de contenus destinés aux plus jeunes. Au menu, des programmes courts pour les 6-8 ans et un film d'animation.
Et si certains sont... Parents d'enfants ou ados n'ayant pas pu reprendre l'école, le confinement continue et c'est dur. Après les ateliers pâte à modeler, le macramé, le uno, vous avez tenté d'initier vos gosses à la cuisine, mais vu leur agitation, fallait s'y attendre, il y a eu des accidents domestiques.
Ouais, j'ai coupé un bout volontairement, pardon. Ouais, excuse-moi.
Bon, ça va, c'est juste un doigt, ce sont des choses qui arrivent, les enfants sont si douillés. Après tout, si ça les amuse pas de cuisiner, tant pis pour eux, mettez-les devant la télé, ça a toujours été votre politique, Eva.
Ah oui, moi, devant les écrans et on est tranquille pour quelques temps.
Aujourd'hui, je sais pas de quoi vous allez nous parler, mais moi j'ai une petite feuille qui résume en fait votre chronique. chronique. Et ça, le titre, c'est 17 minutes de paix, Moyen-Âge plus courgette.
Oui.
Ça, j'avoue que je suis assez intrigué par cette combinaison.
Je vous explique. Vous voulez que je vous explique?
J'ai envie de
savoir. Allez, on commence avec des pastilles animées de 3 minutes qui sont à retrouver sur France.tv, qui sont intitulées 1001 Moyen-Âge ou comment expliquer la période du Moyen-Âge avec humour aux enfants. Chaque épisode développe un thème. Alors, les troubadours, les cathédrales, les tournois, la médecine ou encore la saleté et comment les villes ont accédé petit à petit à la propreté.
On interdit aux gens de faire leurs besoins n'importe où. On ordonne de paver les rues. On interdit aussi d'y jeter ses ordures. On demande aux bourreaux de tuer les hordes de chiens errants.
Et voilà, tout ça c'est au Moyen-Âge pour essayer d'éliminer la saleté des villes. Alors c'est idéal pour les enfants de 6 à 8 ans ce dessin animé. Le dessin est très moderne donc ça peut être un peu déconcertant, c'est pas un dessin qu'on a l'habitude de voir dans les programmes jeunesse, mais sur le fond c'est très réussi avec une voix off qui apporte des informations avec un ton parfois ironique. C'est l'occasion de comprendre que cette période a été déterminante dans la construction de nos sociétés. Ça s'appelle 1001 Moyen-Âge et c'est le contenu à voir avec vos enfants sur France.tv. Votre petit garçon va adorer.
Voilà donc pour le Moyen-Âge et maintenant passons à la courgette.
On passe à la courgette, exactement. Un film d'animation qui m'a bouleversée et qui avait bouleversé aussi les festivaliers lors du Festival de Cannes en 2016, Ma vie de courgette. L'adaptation du roman de Gilles Paris par Claude Barras, inspiré entre autres par Tim Burton. Alors l'histoire, elle débute assez mal. C'est Courgette, un petit garçon de 10 ans. Il vient de tuer accidentellement sa maman et il est pris en charge par un policier, Raymond, qui va le conduire dans un foyer pour enfants orphelins. Voilà, un foyer dans lequel Courgette va se construire une nouvelle famille avec ses 6 copains et copines. Il tente de gommer un peu son chagrin. Et puis, vous allez le voir, au fur et à mesure, le film va gagner en humour et en lumière. Petit exemple, quand les garçons se retrouvent entre eux le soir venu, la conversation tourne toujours autour du même sujet, le sexe, évidemment.
Tu sais comment on fait le truc, là ?
Quel truc ?
Le truc avec les filles, les garçons.
Ça, je connais tout par cœur. Mes parents, ils avaient des films. Tu remues comme ça. Puis après, la fille, elle remue aussi. Puis après, bah, paf, tu vois.
Quoi, paf ? Le zizi, il explose.
Ouais, il explose.
Non, mais sérieux, Simon. Oh.
Eh ben, t'es crevé, quoi.
Et puis les filles, ça leur fait quoi?
Eh ben, les filles, elles transpirent un max et puis elles font que dire qu'elles sont d'accord, genre.
Bah oui, 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 comme ça.
Alors, je vous avais déjà parlé sur cette antenne du coup de cœur que j'ai eu pour ce film réalisé à partir de marionnettes aux têtes rondes et aux yeux immenses et dont les voix sont assurées d'ailleurs par des enfants. Si les histoires de chacun de ces gamins sont tragiques et laissent planer quand même une atmosphère d'une tristesse infinie, mais il y a le sentiment de solidarité, de fraternité qui se dégage et qui emporte tout sur son passage. Il y a vraiment une poésie très rare dans ce film qui ne manquera pas d'émouvoir vos enfants et vous aussi, j'en suis sûre. Je vous le recommande à regarder en famille. Donc, c'est sur France.tv et c'est gratuit. Voilà.
C'est un ovni. Hein, c'est un ovni,
c'est
ce film.
Mais
c'est à voir, effectivement. Merci beaucoup, Eva, pour ces très bons conseils.
L'équipe est sauvage sur cet après-midi jusqu'à 18h. Donc, on va parler cinéma et notamment du Drive-In Festival à Bordeaux, du seul festival de jazz maintenu, celui de Maison Lafitte. On se demandera aussi à quoi ressemblera la vie de bureau post-coronavirus. On n'oubliera pas les petits devant les écrans grâce à Eva Rock, qui sélectionne toujours quelques programmes. Et puis pour commencer, on prend des nouvelles de la journaliste présentatrice Anne-Sophie Lapix.
Vous écoutez L'Équipée Sauvage, 2 heures éclectiques où l'info la plus sérieuse peut entrer en collision frontale avec le rire le plus débridé. Un peu finalement comme dans Le Grand Échiquier, l'émission culte de Jacques Chancel, reprise désormais par Anne-Sophie Lapix. Merci d'être avec nous cet après-midi, Anne-Sophie.
Merci Mathieu.
Tous les deux, on se connaît un peu, hein.
Oui.
On va le dire. Pendant 2 saisons, je vous ai aimablement taquiné dans C'est à vous sur France 5, soulignant chaque soir vos petites bourdes si rares.
Hein, si peu.
Rassurez-vous, je dis ça juste pour planter le décor, puisque conformément à ce que vous m'avez demandé hors antenne, je ne reviendrai pas sur ces bourdes, évidemment. Ni la fois où vous aviez confondu un éminent professeur en médecine avec un chanteur des années 80.
On accueille le docteur Feldman, Salman.
Ni la fois où vous étiez mélangé dans les inconnus entre Campan et Bourdon.
Alors, avant de commencer, Bernard, vous allez...
Didier.
Ni, évidemment, la fois où vous aviez involontairement rejoué une scène d'OSS 117 avec un invité d'origine asiatique.
Frédéric Shaw, vous n'êtes absolument pas chinois ou d'origine chinoise. Ah pardon, excusez-moi.
Voilà, soyez rassurés, Sophie, motus et bouche cousue, laissons le passé où il est et tournons-nous vers l'avenir. Alors l'avenir, c'est, on en parlait, Le Grand Échiquier demain soir, mais c'est aussi la présentation du JT de France 2 tous les soirs. D'ailleurs, là, ce soir, vous êtes à l'antenne, demain soir aussi, comment ça se passe? Vous vous faites remplacer là pour préparer Le Grand Échiquier?
Non, j'ai droit à 2 jours pour Le Grand Échiquier. 2 jours
vous
de
avez
répétition.
Posé vos RTT?
Non, j'y ai droit. Non, ça fait partie de mon travail. Je suis toujours salariée de France 2. Donc je travaille aussi quand je présente Le Grand Échiquier. Et c'est Julien Bugier qui me remplace. Et je veux dire que je ne suis pas mécontente parce que ça fait une petite pause. Les journaux sont longs, il y a une petite pression supplémentaires depuis le début de la crise et du confinement. Donc ces deux jours où je ne suis que dans un univers de culture, de musique, de danse, me font le plus grand bien.
Présenter le JT en temps normal, c'est déjà une charge harassante, c'est déjà beaucoup de pression, mais en ce moment, avec l'épidémie exceptionnelle qu'on vit, et avec la méfiance aussi envers les médias traditionnels qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant, est-ce que c'est pas encore plus compliqué? Est-ce qu'on on réfléchit, on recoupe chaque info vraiment plusieurs fois pour être sûr de ce qu'on dit? Surtout qu'il y a des propos contradictoires, hein, même, qui sont tenus même par les scientifiques au sujet de ce Covid. Comment vous vous organisez?
Et là, on est prudent, on est extrêmement prudent, et on pose beaucoup de questions. On n'a pas toujours les réponses, mais on pose beaucoup de questions. Puis on se rend compte effectivement que ce virus, les scientifiques apprennent à le connaître aussi au fil des semaines. Donc c'est voilà, il n'y a pas de honte à ne rien savoir dès le départ. Donc on a effectivement essayé d'être prudent, parce que vous savez, la moindre erreur, vous la payez. Je veux dire, les téléspectateurs sont très exigeants, et ils ont raison de l'être. Donc effectivement, on a redoublé de prudence.
Les téléspectateurs sont exigeants, et ils sont surtout nombreux, Anne-Sophie. Je me souviens, il y a quelques mois, on faisait encore des débats dans les émissions médias sur le thème la mort du JT. Le JT, c'est fini, maintenant on va s'informer sur Internet. Là, on voit bien que ce n'est pas le cas du tout. On vit un nouvel âge d'or du JT.
Oui, mais cela dit, cette année, on était déjà dans une bonne année. Donc moi, je ne crois pas du tout à la mort du JT. D'abord parce que ça fait très longtemps que je suis dans ce secteur, que je présente des journaux. Ça fait déjà au moins 10, 15, 20 ans qu'on annonce sa mort, et qu'il résiste parce qu'il a su se réinventer, proposer autre chose que les chaînes info. Quand on part du principe, nous, quand on choisit les sujets, quand on fait le conducteur, que nos téléspectateurs connaissent la plupart des infos du jour. Donc nous, on va leur proposer autre chose, des éléments de compréhension, beaucoup de reportages, d'illustrations. Voilà, donc si on ne peut pas se contenter d'essayer de donner la liste exhaustive des titres du jour. Il faut faire des choix, c'est très intéressant aussi, et puis approfondir. Et je pense que les téléspectateurs ont envie de ça.
Les téléspectateurs ont certainement envie de ça, mais moi je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour vous, je vous connais un peu, et je me dis, je fais un comparatif quand je vois votre carrière. Vous présentez le JT de France 2 qui cartonne, vous êtes au sommet de votre carrière, vous me faites penser à Michael Jordan en 98. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Comment on peut envisager la suite finalement? Est-ce que, voilà, Michael Jordan ensuite, ça n'a pas très bien marché, hein, le baseball, tout ça. Donc est-ce que vous avez encore des rêves, Anne-Sophie?
Oui, alors je ne vais pas me lancer dans le baseball, ça c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas du tout un sommet de présenter le 20h, parce que d'abord j'ai fait plusieurs choses que j'ai aimées, et j'ai pas eu le sentiment qu'il fallait qu'il y ait une progression, mais plutôt une diversité. Donc ce qui me permet de pas être déçue quand je change. Donc la prochaine, je sais pas ce que ce sera, parce que je suscite rarement les occasions, mais j'essaie de les saisir et d'en être digne. Donc je ne sais pas ce que sera la prochaine étape.
Eva Rock.
Sophie Lapix, est-ce que vous aimeriez, par exemple, dans un futur lointain ou semi-lointain?
Attention, elle a son rire con. Mais non, je sais, son sourire, je ne sais pas ce que vous allez dire.
Du tout.
Mais
oui. Est-ce que vous auriez aimé être à la place d'un des artistes que vous recevez demain soir au Grand Échiquier?
Oh là là. Enfin, moi, j'ai aucun don, hein, vraiment aucun don artistique. Donc, c'est voilà. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais petite, comme souvent les petites filles. J'en ai fait 15 ans, puis après, j'ai fait.
Ah oui, 15 ans quand même. Oui.
Style de danse. Oui. Oui. Et je pense que voilà, il y a le rêve de petite fille de danseuse, quoi, de petite fille, mais voilà, mais ça c'est pas du tout, j'ai pas ni regret ni capacité pour ce genre de choses. Et puis surtout les artistes qu'on reçoit, j'ai lu leur livre, parce que la plupart de mes invités ont écrit un livre et raconté leur parcours. C'est vraiment un travail, une discipline exceptionnelle que moi je n'ai jamais eue, et surtout c'est une vie très très difficile. Renaud Capuçon, il passe 100-130 jours à travers le monde pour donner des concerts, et c'est difficile parce qu'il est souvent éloigné de sa famille. Les concerts peuvent avoir lieu le week-end. C'est une vie vraiment difficile, de sacrifice aussi. Donc tout ça est pas si... Nous, on voit le bon côté, parce qu'évidemment, il y a la magie de l'artiste qui interprète un air et qui nous émerveille. Mais voilà, il y a un côté quand même très, très difficile dans la vie de l'artiste.
Et puis, vous, Anne-Sophie, contractuellement, ça, je sais que je connais le détail de votre contrat avec France 2, contractuellement, vous devez être à Saint-Jean-de-Luz tous les week-ends. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas être ailleurs.
C'est à 95 km de Paris. Voilà, c'est bien.
Voilà, c'est très pratique. Voilà, mais chut. Le Grand Échiquier en direct, c'est demain soir, 21h05 sur France 2. Merci beaucoup Anne-Sophie Lapix d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci à vous, ça me fait plaisir de vous entendre.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur...
L'heure est au déconfinement et au retour progressif des salariés au travail. Alors certains retournent au bureau quand d'autres continuent de télétravailler avant un retour à la normale. Et c'est vrai, oui, il y aura un avant et un après coronavirus. La vie au bureau n'y échappera pas. Explication avec Mathieu Noël, Eva Rock et surtout Emmanuel Duteil.
Il fait partie des meilleurs journalistes de cette station. Il est d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, chef du service économie et sociale. Son seul point faible, son mental. Emmanuel Duteil ne croit pas suffisamment en lui. Et fatalement, ses adversaires retors, comme Nicolas Carreau l'autre jour, exploitent cette faille au moment du vote final. Emmanuel Duteil, pourquoi c'est vous qui allez remporter la margoulette finalement ?
Parce que j'ai en travaillé, j'ai enquêté, je vous ai apporté de l'information. Certes, j'étais pas drôle.
Non, il y croit pas.
Mais si, j'y crois. Mais j'ai beau défendre dans tous les sens, de toute façon, ça marche jamais.
Cessez, Emmanuel, ce défaitisme, puisque moi, et Dieu sait que c'était serré aujourd'hui, parce que j'ai adoré la chronique de Nicolas.
C'est de la pitié, oh.
Un point pour Emmanuel Duteil.
Ouais !
Et voilà !
Emmanuel, essayez de vous concentrer sur ce « ouais », cette énergie-là, c'est ce que vous allez donner dans votre chronique et c'est pour ça que vous allez l'emporter aujourd'hui. Vous avez, non pas enquêté, mais vous avez suivi votre intuition pour imaginer le monde d'après au bureau, le monde d'après le Covid, évidemment.
Exactement. Donc je vais sortir d'une certaine manière ma carte boule de cristal aujourd'hui. Mais au-delà de la blague, c'est vraiment un sujet passionnant parce que cette crise a révélé un élément important. On peut beaucoup plus que ce que l'on pensait faire du télétravail. Par exemple, vous, Mathieu, vous en êtes le meilleur exemple. Vous n'auriez jamais imaginé que ça puisse être possible pendant deux mois comme ça de faire une émission qui tienne la route depuis votre canapé.
Je ne sais pas si elle tenait la route, mais en tout cas, on a réussi à la faire.
Voilà, canapé et caleçon. Et même dans les boîtes réticentes, on se rend bien compte que télétravail aujourd'hui ne rime pas avec glander,
pas du tout,
au contraire.
Ouais,
ouais. Donc, assurément, avec cette crise, on va aller moins au bureau dans les mois et dans les semaines à venir. De grandes entreprises hein, comme PSA ont décidé même que le télétravail deviendrait, quand c'est possible, la norme. Conséquence de tout cela, on aura besoin de locaux plus petits.
Ah oui.
C'est la fin aussi hein, du bureau personnalisé avec la photo du petit dernier et la plante grasse offerte par belle-maman qu'on met au travail et que surtout on ne pense à jamais arroser. Et assurément, on va avoir aussi un développement de ce qu'on appelle les lieux de coworking. Vous savez,
oui,
ce sont ces espaces de travail partagés qui n'appartiennent pas à notre entreprise, mais au moins où on peut travailler en commun.
Et alors, c'est une mutation qui va avoir, selon vous, des conséquences multiples.
Oui, c'est tentaculaire. On va prendre l'exemple de l'immobilier. Si vous n'allez plus que deux fois par semaine au bureau, vous pouvez accepter des temps de trajet beaucoup plus longs et donc opter pour le pavillon avec jardin et chien, bien évidemment. Et dans ce pavillon, vous allez prévoir un espace confortable pour pouvoir travailler. Parce que ce qui nous a manqué pour beaucoup pendant ce confinement, c'est un espace confortable pour pouvoir travailler. Les demandes de maisons ont progressé déjà, hein, là, en ce moment, hein, de 12% chez La Forêt depuis le début de la crise. Chez Geoxia, qui est le deuxième constructeur français qui possède notamment les fameuses maisons Phoenix, progression de la demande en maisons individuelles de 40% par rapport à mai de l'an dernier. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'automobile. Si vous n'allez que deux fois par semaine au travail, vous n'avez plus besoin de la même voiture. Le partage de voitures, les solutions de mobilité.
Je vais pouvoir revendre la
Kangoo. Voilà, la Kangoo.
Et ce ne sont pas les seules conséquences.
Oui, alors là, un autre qui va vous paraître totalement anecdotique. Mais si vous allez moins au travail, vous avez moins besoin de chemise ou de la petite veste.
Ah, c'est sympa, mais
ça fait trois mois que j'ai pas acheté une fringue.
Ouais. Mais donc là aussi, complication à venir pour les magasins de vêtements. Autre delta auquel vous n'avez sûrement jamais pensé, pour les pressing. Parce que pourquoi on va au pressing?
Souvent pour les hommes, pour les chemises, et
les femmes très régulièrement pour ce qu'elles mettent principalement au travail ou pour quelques tenues un peu plus apprêtées. Donc on va beaucoup avancer là-dessus, mais on va aussi avoir un changement majeur pour la restauration de travail. Nous, on le voit ici, à Europe 1. On est revenu, mais pour le moment, nous n'avons pas de cantine parce que ce n'est pas possible de mettre en place la distanciation qui est requise au niveau de la cantine. Il va falloir repenser complètement l'offre, mais également repenser l'offre pour les restaurants ou les boulangeries qui travaillent directement. On n'y pense jamais pour les boulangeries, mais l'énorme partie du chiffre d'affaires dans les grandes villes, c'est les sandwichs le midi. On a l'impression quand on n'a pas l'habitude d'y aller que c'est pour acheter notre pain et tout ça. Non, si elles ont eu un impact majeur également le secteur de la boulangerie pendant la crise, c'est à cause de cela, parce que les gens qui travaillaient ne venaient pas.
Voilà.
Et alors, le côté gagnant d'une telle transformation?
Eh bien, ce sont les mêmes, nos amis les GAFA leurs applications de messagerie, de conférences en ligne qui vont bien évidemment être boostées. Mais tout ça, ça pose une sacrée question, une question de souveraineté. Parce que comme nous n'avons pas de solution ou presque pas de solution française et européenne en la matière, on va se retrouver totalement assujetti à ces solutions. Mais au moins, nous, on aura le mieux. On aura un chien et un pavillon.
Et oui, c'est vrai.
Et oui, et une maison phénix. Vivement l'avenir. Moi, j'ai une petite question, Emmanuel, parce que c'est le revers de la médaille. Si on prend notre exemple, nous ici, faire l'émission chacun chez soi et tout ça, ça tourne. Mais le problème, on a quand même un manque de contact humain.
Oui, mais c'est pour ça que je suis parti.
Tu n'aimes pas les gens. J'avais quand même le manque de vous, de mes collègues.
C'est pour ça que je suis parti du préalable. Je ne crois pas. À titre personnel, je vous dis une fois de plus, cette chronique, j'ai essayé de l'imaginer en fonction des contacts que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, mais c'est plus mon intuition personnelle que quelque chose que le secteur est en train de travailler.
Si, quand même, les chiffres de l'immobilier.
Oui, les chiffres de l'immobilier.
Mais ce qui est totalement certain, c'est qu'il n'y aura pas un télétravail perpétuel. Mais les deux points qui sont apparus pendant ce confinement les plus compliqués, c'est le fait de manque de relations sociales, mais qui était complété par le fait qu'on ne voyait pas non plus nos amis. Donc c'était double. Et également le fait, et ça c'est un point à régler, et les partenaires sociaux ont lancé une discussion là-dessus, que là c'était un télétravail tellement particulier que d'une certaine manière il ne s'arrêtait jamais. On n'avait que ça à faire, donc on trouvait normal d'envoyer un mail à 22h pour travailler.
Il y a eu ça
mais
aussi.
Le monde de demain devra être aussi cadré en fonction de toutes ces évolutions.
Vivement le monde de demain avec Emmanuel Duteil. Merci Emmanuel.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Nous sommes toujours avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. Cette année, le Maison Lafitte Jazz Festival se déroulera dans des conditions particulières. En raison de la crise sanitaire, un événement à suivre sur la toile depuis votre canapé. Et on en a parlé cette semaine sur Europe 1 avec Fred Goati.
Pour sa dernière prestation, il a réalisé le Grand Chelem. Ce qui n'a rien d'étonnant, car Fred Goati, directeur de Jazz Magazine, est un des plus redoutables concurrents de l'équipe est sauvage. Ces sujets contiennent toujours un subtil dosage d'infos et de révélations.
Qu'est-ce qu'il faisait Jimmy Page avant Led Zeppelin? Il était musicien de studio. Alors, c'est quoi un musicien de studio?
C'est un musicien qui joue dans un studio.
Voilà.
Fred, aujourd'hui pourtant, vous n'avez pas le cœur à rire. Le jazz souffre et va souffrir cet été de la crise du Covid. À ce jour, un seul festival se maintient, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Mais vous savez ce qui nous manque, les amis? C'est d'être dans une grande salle de concert.
Oh oui.
Comme quand on allait écouter Miles Davis, naguère. Et qu'on poussait un cri d'extase quand il venait de jouer une phrase sublime. Écoutez ça. Vous avez entendu le monsieur qui s'est évanoui?
Oui, tout à fait.
C'est pas moi, mais ça aurait pu. Hein. Ce qui nous manque aussi, c'est de pouvoir aller en club pour applaudir une chanteuse de jazz qu'on aime, par exemple. Tiens, Cécile McLaurin, au hasard. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, running wild.
Yeah.
Ah, des applaudissements.
Mais oui.
Je comprends que vous ayez le blues, Fred, mais on sait hélas qu'il va falloir s'armer de patience avant de pouvoir retourner écouter de la musique live.
Ouais, c'est vrai. Mais en attendant, les gens du métier cherchent des idées. Ils font tout leur possible pour être solidaires avec les musiciens. Et justement, le Maison Lafitte Jazz Festival vient d'avoir une idée formidable. Faire une édition digitale, une digital edition de leur festival, c'est-à-dire filmer avec des moyens professionnels et évidemment, dans le respect des règles de sécurité, 7 concerts d'artistes français pour les diffuser entre le 12 et le 21 juin sur Facebook Live, sur YouTube et sur leur site officiel. Ces concerts seront agrémentés d'interviews des artistes, des techniciens et des bénévoles pour que les gens puissent mesurer à quel point la musique live, c'est avant tout un travail collectif. Et ce qui gâche rien, c'est que la programmation, elle est vraiment top. Il y a le guitariste Birelli Lagrène, le chanteur David Links, le pianiste Paul Lai, sans oublier le génial accordéoniste Vincent Perani, qui jouerait avec son nouveau trio en plus, Jokers. Alors, je lui ai passé un petit coup de fil pour savoir comment il imaginait ses concerts.
Pour nous, musiciens, de nouveaux repères à apprivoiser sur scène, je pense que c'est sûr, l'émotion sera au rendez-vous et j'ai très très hâte d'y être pour savoir comment ça va se passer, comment on va tous réagir, comment on va se retrouver, comment on va dialoguer ensemble, comment on va se regarder, comment on ne va pas se toucher.
Il y aura aussi une batteuse dont j'adore l'univers, elle s'appelle Anne Passeo. Et elle aussi, bien sûr, elle se réjouit que Samuel Strouk, le directeur du Maison Lafitte Jazz Festival, et lui-même musicien d'ailleurs, ait eu cette belle idée.
Je trouve que cette édition du Maison Lafitte Jazz Festival, c'est une super idée. Et c'est vrai qu'avec cette crise Covid-19, nous musiciens avons eu la totalité de nos concerts annulés. Et être privé de la scène, c'est quand même quelque chose de pas évident. J'espère que très bientôt, on pourra rejouer devant des gens. pense que ça va être un chouette moment. Et aussi, ça risque d'être très émouvant.
Ouais, clairement.
Vous avez remarqué, ils ont tous les deux évoqué l'émotion que va procurer ces concerts. Alors ces concerts auront lieu bien sûr à huis clos, hein, en attendant les guichets fermés, hein, j'espère bientôt, et le public ne les découvrira que sur le net. Mais que les artistes puissent à nouveau travailler, créer, partager, je trouve ça effectivement vraiment très émouvant.
Alors ça c'est une belle idée, mais j'imagine que d'autres festivals vont rivaliser d'invention pour permettre aux artistes de rejouer quand même.
Et vous croyez pas si bien dire, Mathieu, je viens d'apprendre que le grand festival Jazz à Vienne en France, hein, pas en Autriche, proposera entre la fin juin et la mi-juillet des événements live, des conférences et plein d'autres surprises. Allez, comme disait l'autre, on ne lâche rien, on supporte la musique live. Et on écoute du jazz.
Évidemment.
Merci beaucoup Fred. Et si les festivals de jazz ne peuvent pas se tenir, ce sera peut-être l'occasion pour les amateurs comme Eva de se produire dans la rue pour nous montrer leur progrès. Ah oui.
Ça va toujours pas mieux. Hein.
On se prépare vraiment un bel été. Hein.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2h à la croisée de la bonne humeur et du savoir en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 et en ligne avec nous chaque après-midi, une personnalité. Aujourd'hui, la chanteuse qui n'est pas une icône car elle est toujours en mouvement, c'est Dani qui est avec nous.
Je suis la fille à la moto, je suis la sage.
J'adore cette chanson.
Moi aussi, j'adore.
Alors... C'était un an avant Brigitte Bardot.
Mais bien sûr.
Qui chantait avec la moto avec Gainsbourg.
Bardot, enfin, vous a tout pris, Dani.
C'est une chanson de Jacques Lanzmann.
Mais elle est formidable, cette chanson.
C'est une chanson de Jacques Lanzmann. Et je crois que c'est un des musiciens de Jacques Dutronc qui a fait la musique.
Ah, c'est marrant, parce que je dirais que ça s'entend.
Ça s'entend vraiment. Ah, oui, ça s'entend beaucoup. Ouais.
Oui, Michel Pelé. Oui, c'est ça. C'était la fameuse équipe, là. C'est drôle, cette chanson.
Dani, vu de l'extérieur, il semble que votre vie soit une succession incroyable de hasard avec une bonne dose de culot et d'audace. Je m'explique. Originaire de Perpignan, vous débarquez à Paris le 11 novembre 63. 3 jours après votre arrivée, vous descendez les Champs-Élysées, vous arrivez devant l'immeuble du journal Jour de France, vous entrez, vous dites « J'arrive de Perpignan, je voudrais devenir mannequin » avec l'accent mannequin.
Ah, oui, bien sûr.
Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est romancé?
Oui. Mais il me semble qu'à 19 ou 20 ans, on a un peu l'audace que... Et avec du recul, après, on se dit, mais comment j'ai pu faire ça, quoi? Après, j'ai appris à parler parisien. Non, l'accent.
On vous a demandé d'effacer votre accent ou pas, Dani?
Ah oui?
Pas du tout. Mais quand je me mets en colère, j'ai toujours l'accent.
Ah, il revient. C'est un peu comme Eva. Elle est niçoise, ça revient quand elle s'énerve. Alors, comment se fait l'enchaînement? Vous faites la une des magazines, ensuite vous vous retrouvez, vous tournez comme avec Truffaut, Chabrol, Lautner, Doyon. Comment, tout ça n'est pas un hasard, enfin, Dani, comment on se retrouve
alors,
à tourner avec les plus grands?
Les rendez-vous de la vie, vous savez, j'ai rencontré François Truffaut à la boulangerie parce que j'allais chercher mon fils à l'école. Il avait ses bureaux la rue Robert-Étienne. Et puis un jour, j'avais une photo dans un journal. Il me dit, c'est vous à la boulangerie, là? Je lui dis, oui. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, je viens chercher mon fils qui est à l'école au bout là-bas. Ah, il me dit, vous savez que mes bureaux sont en haut. Et je lui dis, mais vous voyez la cour de récréation? Il me dit, oui. Alors je lui dis, est-ce que je peux venir demain pour voir qu'est-ce qu'il fait pendant la récréation?
C'est génial. Et c'est comme ça que
alors,
ça fait
là, après j'ai rencontré Suzanne Schiffman, tout son staff. Et puis voilà, j'allais là-bas. Puis un jour, on m'a fait porter un pli en me disant, est-ce que vous voulez être Liliane, la petite amie de Antoine, dans mon film qui s'appelle Je vous présente Pamela, La nuit américaine. Voilà. Et après, voilà, Jean-Marie Perrier, voilà. Mais j'ai jamais. Voilà, c'est les rendez-vous de la vie.
Mais ce qui est fou, Dani, quand on vous écoute, c'est qu'aujourd'hui, on croise beaucoup de jeunes acteurs. Alors, il y a des écoles, des formations, tout ça. Ils ont tous les dents qui rayent le parquet. Ils tueraient père et mère pour un rôle. On a l'impression que vous, tout s'est fait comme ça, légèrement, par la magie des rencontres. C'est vraiment le résumé de votre vie. Vous n'avez jamais forcé la porte.
Après, évidemment, quand on a des aventures comme ça, il faut bosser un peu. Hein. Il faut s'intéresser. Le cinéma, c'est quand même autre chose que la musique, et c'est intéressant d'être quelqu'un d'autre pendant 2 ou 3 mois, c'est pas mal.
Dani, on parle de toute cette période de vos débuts, quand vous y repensez, vous avez une impression de nostalgie ou voilà, c'est derrière vous et puis vous préférez regarder devant?
Non, je regarde pas le rétroviseur tellement, mais c'est vrai que c'est voilà, je prends ça comme ça, c'est des cadeaux du ciel pour moi. Évidemment, il y en a qui donnent des ailes, d'autres ont dit, oh là là, j'aurais pu faire ça comme ça, ou j'aurais pas dû le faire, ou on a toujours, enfin moi personnellement, j'ai toujours des doutes, mais je regarde pas trop dans le rétro, je regarde plus devant.
Dans votre prochain spectacle dont on parlait tout à l'heure, vous dites que vous allez rendre hommage aux femmes qui vous inspirent. Oui. Quelles sont ces femmes qui vous ont inspiré dans votre vie?
Par exemple, je vais lire un bout de Anaïs Nin, par exemple. Ouais. Évidemment Simone Veil, j'ai lu une lettre de Calamity Jane qu'elle a écrite à sa fille.
Ah, génial.
Et donc ça sera intégré au spectacle sous forme de lecture.
Oui.
Dany, vous nous racontiez que tout à l'heure, c'était Étienne Daho qui vous avait poussé à de nouveau chanter et à reprendre comme un boomerang. Qui vous a poussé là, à remonter sur scène, à créer ce spectacle?
C'est il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai fait des concerts avec une autre formule. C'est juste une fille qui joue de la guitare électrique avec moi. On n'est que deux sur scène. Et ça a donné un son et un coup de soleil à des chansons que j'avais, que j'adore toujours. Et revisitées musicalement, elles prennent une autre histoire.
On l'attend avec impatience. Horizon Doré, donc cet album qui va sortir normalement à la rentrée. C'est bien ça, Dany?
Oui, c'est ça.
Et ensuite, le spectacle.
Et ensuite, on s'en va. Mais tout de suite, on ne peut pas faire de spectacle. Oui. Donc, il faut avoir de la patience, encore une fois, continuer à rêver pour y faire tout bien, pour retrouver cette liberté qui nous manque à tous, quoi.
Soyons patients, mais continuons de rêver. C'est le message de Dany aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, Dany.
Avec plaisir.
L'équipe est sauvage.
Emmenée par Mathieu Noël, bien sûr, on va retrouver à présent la chronique d'Eva Rock, qui a sélectionné pour les tout petits deux programmes.
La vie reprend peu à peu. Parents d'ados n'ayant pu reprendre le collège, il vous arrive quand même désormais de réussir à vous débarrasser d'eux quelques heures dans la journée, quand vous les emmenez par exemple déjeuner chez des copains. Mais même là, ils continuent de vous courir sur le haricot, car votre ado trouve évidemment votre conduite un peu rouillée.
Moi je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait quand même repasser son permis.
Je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule.
Le mieux pour faire taire un ado, c'est de l'hypnotiser avec un bon vieil écran. Et il en oubliera d'être insolent,
c'est
pas
vrai? Ouais, c'est vrai. Mais enfin, on va commencer avec les tout petits aujourd'hui. C'est un programme pour eux, oui. On va imaginer que vous ayez que vous soyez un peu à court d'histoire pour vos enfants. Vous en ayez même un peu marre de leur raconter des histoires. Eh bien, vous pouvez vous brancher sur France.tv pour découvrir Yetili. Alors, on est dans une librairie. C'est une vraie librairie. C'est un vrai décor de librairie. Et dedans, il y a un Yetili qui est un immense Yeti au poil blanc qui est la star de ce programme. C'est une sorte de Casimir 2020.
Qu'est-ce qu'il est devenu, peluche. Casimir? Il faudrait lancer une
enquête. Il va très bien.
Comment ça, il va très bien?
Mais oui, parce que je sais qui est dans... Mais oui, non, mais c'est Yves Brunier. Mais on l'embrasse.
Alors, attendez,
d'ailleurs.
Vous connaissez Casimir personnellement?
Mais clairement, j'ai déjà fait des soirées avec lui.
Vous avez fait des soirées avec Casimir?
Ouais, c'était formidable. Non, mais en plus, je déconne pas, c'est vrai. Ouais. Yves Brunier, qu'on embrasse, hein, qui est dans Monsieur
mais,
Casimir.
Pardonnez-moi,
en fait.
Mais il a quel âge, Casimir?
Le personnage ou le monsieur qui est à l'intérieur?
Le monsieur qui est à l'intérieur.
Je sais, j'ose pas trop dire.
J'ose pas trop dire, mais disons que voilà.
Ah c'est... bah oui, il est plus vieux que moi, oui, bah, c'est
exactement,
ça.
Exactement.
Oui, on est d'accord.
D'accord, il faut qu'il fasse attention avec le Covid. Remarquez, il est protégé.
Bah, oui.
Il est protégé.
C'est ça.
Il a le masque depuis longtemps.
Bon, bah Yeti lui aussi, il est protégé, hein, voilà. Alors lui, c'est pareil, c'est une énorme peluche qui va prendre vie quand la librairie ferme ses portes au public et il va se transformer en formidable conteur pour Léon et Nina, ces deux petites souris qui sont trop mignonnes et qui l'accompagnent à chaque fois. Donc les petites souris, elles s'installent près de Yetili et l'histoire peut commencer, celle par exemple de Minute Papillon.
La voici qui goûte à une aubergine.
Berk, les aubergines Berk. Je sais plus c'est quoi, mais Berk comme Nina.
Vous ne savez pas ce qui est bon. Caviar d'aubergine, aubergine poêlée aux tomates, aubergine en gelée.
Oh, c'est vrai que ça a l'air beau.
Et oh, Yetili, la suite de l'histoire, s'il te plaît.
Alors Yetili, il aime tous les livres destinés aux 3-6 ans, les classiques, les nouveaux albums. Et vous l'avez entendu, comme avec vos enfants, eh bien les petites souris, elles interviennent à chaque fois pour lui demander un petit détail sur l'histoire. Le programme est d'une durée de 7 minutes. C'est vraiment le temps d'une histoire extrêmement bien racontée par cette sympathique créature et qui est réalisée de façon à ce que les dessins de chaque page du bouquin, évidemment, apparaissent à l'écran. C'est malin, poétique, intelligent. Et puis c'est surtout une invitation à la lecture et c'est à voir sur France.tv.
C'est vrai, mais le problème de Yetili, c'est que c'est beaucoup trop court.
Et oui,
on n'a pas
7
la
minutes.
Paix très longtemps.
Voilà.
Est-ce que vous n'avez pas plus long comme format?
Oui, bien sûr. Et on remercie d'ailleurs TMC de programmer ce soir à 21h15 un film d'animation de 115 minutes.
Oh, 115
oui,
minutes,
ça c'est très
bon,
très
ça,
bien.
Oui.
Voilà,
ça
un long métrage.
De faire 2-3 choses.
Exactement. Un long métrage dans lequel on peut entendre notamment cette chanson revue et corrigée.
Regarde ce que je peux faire sans autotune.
Tu dis quoi? Non, il l'a fait.
Si t'essaies de me mettre à terre, j'en sortirai vainqueur. Si t'essaies de me faire taire, je mettrai mon haut-parleur.
Alors, nouvelle nouvelle version de I'll We Survive, reprise par un vieux cacaotès qui se prénomme Hector.
Cacatoès, c'est encore un autre animal. On pourrait peut-être, si Farah est toujours avec nous, nous expliquer ce que c'est. Mais...
Un cacatoès qui est nommé Hector. Bienvenue dans le monde très drôle et coloré de Rio, mais deuxième chapitre, Rio 2. Vous allez retrouver notre hara domestique Blue, qui est bien décidé à partir avec sa famille dans la jungle à la recherche de leurs racines, et puis qui va donc retomber sur son ennemi juré, Hector, qui chante très bien d'ailleurs. C'est un périple qui est rythmé par une multitude de jeux de mots hilarants, et puis l'arrivée de personnages désopilants comme la grenouille, chanteuse d'opéra, Gabi, dont la voix est assurée par une immense artiste qu'on a reçue dans l'Équipée Sauvage, Nathalie Dessay. Et au rang des voix connues, un autre invité de l'Équipée Sauvage, on retrouve Laurent Deutsch dans celle de Blue, le héros. Voilà, je suis certaine que vous allez passer un bon moment. Et franchement, les grands, je vous le dis, restez devant votre écran. Partagez ce moment avec vos enfants, sinon vous avez donc 115 minutes de paix, ce qui est pas mal.
Merci Eva et nos amitiés à Casimir.
Europe 1, 16h-18h, l'Équipée Sauvage.
C'est l'heure du mix, un mix un peu particulier aujourd'hui, m'avez-vous
dit,
Eva ?
Oui, un peu spécial, Mathieu, parce que pendant le confinement, vous savez qu'on a reçu beaucoup de messages d'auditeurs, on les remercie d'ailleurs. Et puis parmi eux, il y a Claire. Claire, elle est maman de 3 enfants, elle est institutrice dans une école de Charente à La Rochefoucauld. Elle se sert des écrans pour montrer à ses élèves des contenus de qualité, notamment, vous savez peut-être, vous en souvenez, les courts-métrages d'animation dont je vous avais parlé sur le site filmpourenfants.com. Eh bien, il semblerait que les enfants soient d'accord avec mes choix de façon plus globale. Ils m'ont envoyé un message hyper gentil, hyper mignon. Je voulais le partager avec vous, alors non pas par autosatisfaction, encore que,
Romain Causeur-Roger me fait de grands signes. Oui, c'est un petit peu, c'est un moment, une sorte d'autosatisfaction finalement.
Exactement, c'est mon petit moment d'ego trip, voilà.
Oui.
Mais surtout, j'ai apprécié qu'ils ont vraiment fait un travail d'écriture de ces petits mots que vous allez entendre, et puis ils ont fait surtout l'effort de les enregistrer. On les écoute.
Bonjour, je m'appelle Abigail, j'ai bientôt 8 ans, je suis en CE1 à l'école Maurice Genevoix, à La Rochefoucauld en Angoumois, en Charente. J'aimerais remercier Eva pour avoir demandé à maîtresse de nous faire voir les petits courts-métrages. Et on va choisir celui qu'on préfère le plus. Merci Eva.
Moi c'est Ethan, j'ai 8 ans, on adore Max et le Maestro parce qu'on adore la musique.
Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 8 ans, on a bien aimé C'est qui parce que ça fait apprendre plein de choses. Merci encore et encore.
Merci Eva.
Non mais ils sont trop choux. Non
et
mais
donc,
ils sont trop mignons.
Un gros auto-kiff,
mais
Eva,
oui, mais
un
oui.
Gros égo-trip comme
non,
on dit
non,
dans
non.
Le rap.
Encore une fois, non mais voilà, encore une fois, ils ont fait un petit travail d'écriture, voilà, et d'enregistrement pour ce petit mot. C'est la classe de Claire des CP-CE1 du village de La Rochefoucauld en Charente, et surtout ils sont la preuve qu'on peut faire œuvre de pédagogie grâce aux écrans, grâce surtout à un usage modéré, je tiens à le rappeler, et surtout avec l'appui d'un adulte. C'est là que ça devient intelligent et intéressant. Voilà. Je les embrasse.
Eh bien,
qu'est-ce qu'il y a? Dis-toi de saloperie, allez-y.
Non, je n'ai pas de saloperie, je suis juste ému, Eva.
Bah voilà, moi aussi.
Ému par ce moment et tous ces enfants. Les enfants vous aiment, mon fils vous adore, vous savez
bah
ça.
Bah ouais, moi aussi, j'adore.
16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'Équipée Sauvage.
Pour conserver le lien entre les Français et leurs salles de cinéma, et puis pour aider aussi les salles à surmonter la crise, une association lance un festival de drive-in. On en a parlé cette semaine dans l'Équipée Sauvage avec Mathieu Noël, Eva Rock et Stéphane Place.
L'organigramme d'Europe 1 compte bien des postes prestigieux, des titres ronflants. Mais en interne, chacun sait quel est le meilleur poste. Dans la rédac, les journalistes l'appellent même la planque. Il s'agit bien évidemment du poste de correspondant dans le sud-ouest. Une région où on sait prendre le temps de vivre et où il n'y a jamais le feu, pas vrai Stéphane?
Moi en général, quand je mets le feu, sur le feu, je mets plutôt une entrecôte, vous voyez, je voilà. M'en vais pas.
Et oui Stéphane Place, vous êtes notre heureux correspondant à Bordeaux, où un concept très américain est en train d'être testé.
Oui, c'est vrai. Le Drive-In Festival, c'est le nom de ce festival original qui vient d'être lancé, qui est donc aujourd'hui à Bordeaux, mais on en parlera tout à l'heure, qui va continuer en France, dans d'autres régions. Le principe, il est excessivement simple. Les salles de cinéma étant fermées, eh bien, on a décidé ici d'implanter un grand écran, 190 mètres carrés, sur une immense place en plein centre-ville de Bordeaux, la place des Quinconces. C'est au bord du fleuve, à côté de la Garonne. Et là, vous pouvez venir voir votre film, mais en restant dans votre voiture à 3 par véhicule. Vous vous installez et puis vous pouvez donc suivre le film qui est diffusé. Fabien Robert, adjoint au maire de Bordeaux, va nous expliquer un petit peu comment ça se passe.
Jamais besoin de baisser la vitre ou de sortir de la voiture, en garé, placé, en écoutant le son sur l'autoradio, puisqu'une fréquence a été réservée à cet effet. Tout est fait pour respecter les gestes barrières. Les voitures aussi sont placées un petit peu en hémicycle, hein, pour s'assurer que tout le monde voit bien. Elles sont suffisamment espacées les unes des autres. C'est une initiative qui a but non lucratif. Et puis bien sûr, quand les salles de cinéma réouvrent, ce type d'initiative n'a pas vocation à perdurer. Et en plus, tout ça est assez accessible puisque 10 euros c'est à peu près le prix d'une place de cinéma, 5 euros pour les enfants. Je rappelle que si on en est contraint à regarder le film dans la voiture, c'est parce qu'on ne peut pas faire des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public. On ne peut venir qu'en voiture.
Donc il faut bien jouer le jeu, hein, rester dans sa voiture. Donc il faut aussi penser à nettoyer comme il faut son pare-brise, sinon dans le film il peut y avoir une grosse mouche à un moment dont on ne comprend pas bien quel rôle elle tient.
Mais si vous regardez le film La Mouche par exemple,
ça peut avoir du sens, oui, mais il faut vraiment que ce soit une diffusion particulière. Là ce soir par exemple c'est Whiplash,
le film de Damien Chazelle,
qui est diffusé sur la place des Quinconces à 21h. On peut venir avec ce qu'on a préparé à manger, cette petite gamelle. C'est le principe, vous êtes dans votre voiture.
Il n'y a pas de distributeur de popcorn.
Bon, il vaut mieux le faire soi-même, surtout en ce moment. Vous voyez, ça évite les contacts et ça permet les règles de distanciation. Je le signale quand même, ce festival va rester 10 jours à Bordeaux, mais ensuite il est prévu, donc dans les mêmes conditions, hein, qu'il aille du côté de Marseille, puis dans les Hauts-de-France. Et puis ça fait un peu grincer des dents. J'ai vu qu'il y avait quelques critiques, la Fédération des cinémas notamment, qui dit mais la priorité c'est la réouverture des salles.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre.
C'est un moindre mal. Et puis on a bien compris que dès lors que les salles allait pouvoir rouvrir, eh bien ce type de projection en plein air allait s'arrêter. Hein. Ça n'a pas vocation à devenir une offre commerciale. En attendant, ça permet pour ceux qui en sont sevrés d'aller se faire une toile. C'est pas désagréable. Hein,
mais surtout, Stéphane, si je comprends bien, en plus, ce sont des rediffusions de films qui datent de 2-3 ans. Donc, il n'y a pas de concurrence avec les salles de cinéma quand elles réouvriront.
Non, pour moi, c'est pas la même démarche, mais vous avez raison de le souligner. Ils ont commencé d'ailleurs samedi par la projection d'Hippocrate en hommage aux soignants, bien entendu, qui sont en première
ligne.
Très
bon film.
Ouais. Dans la lutte contre le coronavirus, c'est un excellent film. Donc voilà, c'est une initiative qui, à mon sens, mérite un coup de chapeau, c'est plutôt bien vu et manifestement ça a séduit pour la première séance. Je crois qu'il y avait environ 200 voitures.
Ah, donc, pas mal.
C'est pas si mal sur cette immense place des Quinconces.
Une belle initiative. Eva, pas d'anecdote. On a eu l'anecdote de l'hippopotame tout à l'heure.
J'ai jamais fait de drive-in.
Dans un drive-in.
Alors que vous étiez en drive-in, l'hippopotame n'est pas arrivé.
J'aurais adoré.
Vous auriez adoré.
Non,
bien, merci.
Faire un drive-in.
Très bien. On peut se faire ça si vous voulez cet été.
Ah oui, volontiers.
Il va démarrer la Kangoo, le père Mathieu Noël, et puis il va prendre voir un drive-in.
Alors là, Stéphane, vous êtes mort jusqu'à la fin de la saison.
Oui, et je vous ferai faire un petit tour en Kangoo un de ces jours, Stéphane.
Moi, j'arrive plaisir. Alors là, j'attends.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h.
Accueillons à présent Olivier Pousse, le Che Guevara du terroir. Fin gastronome, palais délicat, puriste du terroir, le Che Bourguignon s'engage quotidiennement contre la malbouffe et les industriels qui la promeuvent. Chaque week-end, il fait des tours en Hummer autour du McDonald's, non loin de sa demeure bourguignonne, avec un mégaphone.
Assassin, pollueur, fumier, dégueulasse, ordure, Macron, exploiteur, industriel.
Et vous aurez connu, Eva.
J'ai pas reconnu.
Michel Piccoli.
Ah, c'est vrai? Dans quel film vous souvenez pas?
Il a fallu attendre 1h45 pour que vous arriviez à le dire correctement.
Oui. Et comme j'y arrive pas, heureusement que j'ai rien dit. Voilà,
mais
comme
n'oublions
ça.
Pas, il est en ligne avec nous, le Che Bourguignon. Bonjour Olivier Pouls.
Et oui, il y a du Piccoli en moi, chers amis, car j'aurais pu parfaitement prononcer ces mots.
Et mais vous auriez pu surtout participer à la grande bouffe sans effets spéciaux, contrairement à Michel.
Ah bah là, je vous confirme. Mais c'est un peu ça tous les week-ends chez moi, figurez-vous.
Mais ne mourrez pas
quand
même.
Je perpétue la tradition.
Non, essayez de rester vivant, Olivier Pouls. Chaque jour de cette semaine, vous nous proposez une idée de recette dessert, du sucré. Hier soir, on a eu droit à une tentative audacieuse, je dirais, petits pois verveine. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir?
Eh bien, lardon chocolat blanc, si vous voulez. Non, là, je plaisante. Non, on va faire quand même plus facile, plus classique, on va dire. Mais quand même quelque chose qui déboîte et qui devrait demain vous permettre à la cantine de rendre jaloux Jean-Mi de la Conta, qui lui va sortir, vous savez, une mousse de chocolat chez Mamie Nova. Et vous, eh bien, en face, vous allez sortir votre panna cotta fraise basilic maison.
Ah,
et il va y avoir des jaloux.
Oh oui, alors racontez-nous comment ça se fait, une panna cotta.
Eh bien, c'est très facile et surtout c'est très rapide. Je vous garantis moins d'un quart d'heure en cuisine ce soir pour la préparer. Alors suivez-moi bien. Vous allez prendre pour deux panna cotta, parce que bien évidemment vous allez en préparer une pour votre conjoint ou votre conjointe, histoire de regagner quelques points après le confinement. Donc pour deux panna cotta, vous allez prendre un beau verre de crème liquide, un demi-verre de sucre, une feuille de gélatine, quelques feuilles de basilic, une belle poignée de fraises, une petite touche de miel et de citron vert. Alors c'est parti. Vous mettez dans votre casserole à bouillir la crème avec le sucre. Dès que vous atteignez l'ébullition, vous mettez dedans à infuser vos feuilles de basilic. Vous coupez le feu, vous laissez infuser 10 minutes. Pendant ce temps-là, vous allez préparer votre coulis de fraises. Les fraises, on les mixe avec une cuillère à café de miel, un petit trait de citron vert, mon petit secret, une petite goutte d'huile d'olive. Et vous mixez tout ça en un joli coulis. Dès que votre liquide, votre crème liquide a refroidi et a infusé, vous enlevez évidemment les feuilles de basilic. Vous reportez à ébullition. Dès que l'ébullition est atteinte, vous rajoutez votre feuille de gélatine que vous avez préalablement laissé tremper dans un petit peu d'eau. Vous l'égouttez, vous la mettez dedans, vous mélangez tout ça et vous coulez ça dans deux verres. Vous laissez prendre pendant 3 heures au frigo, la panna cotta est prête. Il n'y a plus qu'à disposer par-dessus votre coulis et râper un tout petit peu de zeste de citron vert. C'est parti, vous êtes le champion de la cantine demain, je vous le garantis.
Je n'ai rien compris, mais nos auditeurs qui sont plus futés que moi auront certainement tout noté et réaliseront cette recette qui en revanche m'a mis l'eau à la bouche. Merci Olivier Pouls, on vous retrouve demain.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.